Vous écoutez France Culture.
Peut-on comprendre le geste d'une personne pédophile ? Cela paraît difficile, mais il y a des gens qui tentent de le faire en écoutant les personnes attirées par les enfants. À Paris, Latifa Benari, présidente de l'association L'Ange Bleu, organise des groupes de parole où se rencontrent anciennes victimes et pédophiles abstinents ou repentis pour prévenir ensemble le passage à l'acte. La parole brute que nous vous livrons est inhabituelle et peu choquée. C'est la parole de personnes volontaires dont les prénoms ont été modifiés. Il est 3h de l'après-midi, nous nous trouvons dans le salon de Latifa Benari. Ils sont plus d'une dizaine autour de la grande table, des hommes, des femmes et même une enfant ce jour-là. La plupart n'osent pas encore toucher aux tasses de thé ni aux assiettes de gâteaux disposées devant eux. Il y en a qui tremblent. Un peu à l'écart, un petit groupe d'observateurs restera silencieux tout au long de la rencontre. Des psys intrigués par la démarche, une juriste qui soutient le travail de Latifa et des victimes encore hésitantes. Comme chaque mois, les discussions vont durer plus de 4 heures. C'est Latifa Benari qui commence.
On va pas commencer avec des fous rires. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est inhabituel de recevoir des mineurs dans les groupes de parole et ça me fait plaisir puisque la petite fille qui est là, présente, a l'air vraiment d'être très très bien dans sa peau. Voilà, je n'ai pas envie, moi, de l'enfermer dans le statut de la traumatiser ou la fille détruite, ça sort aussi. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile pour vous d'avoir des enfants à vos côtés, mais il faut s'habituer puisque ces enfants-là sont aussi dehors. Ils sont dans votre environnement, votre quotidien. Ça ne la dérange pas d'écouter. Franchement, j'ai trouvé ça formidable. Elle n'avait pas envie d'aller faire une promenade. Et je vais donner donc la parole à toutes les personnes présentes ici de profils différents. Je commence par... je ne vais pas dire le pervers. Je vais dire l'homme. Hein, qui a réussi son insertion sans passer 15 ans de sa vie en prison. Donc aujourd'hui, il a un bracelet électronique avec un aménagement de peine. Donc il va le porter 5 mois.
Ouais, à peu près.
Voilà. Et il est passé à l'acte avec sa belle-fille.
Hein. Bah, je l'ai rappelé avec ma belle-fille. Et ça a été dramatique. Voilà. Et ces 10 mois de détention ont fait. j'ai voulu comprendre le pourquoi, le passage à l'acte.
Alors donc, aujourd'hui, on va parler du groupe de parole. Aujourd'hui, il est face à des une maman de victime d'inceste qui essaie de comprendre aussi pourquoi son ex-compagnon est passé à l'acte vis-à-vis des deux filles. Mais surtout, pourquoi. Contrairement à lui, il est enfermé dans le déni. Et après, je te donnerai la parole.
C'est important qu'on ne soit pas, nous, auteurs... Enfin, pour moi, dans mon cas, c'est important de ne pas être dans le déni. Dès le départ, je voulais comprendre, parce que je voyais le mal que je faisais. Et c'était important pour ma victime que je ne sois pas dans le déni. Ça, c'était le plus important.
Est-ce que tu l'as considéré ? Tu as une question que je t'ai jamais posée. Est-ce que lorsqu'au moment où tu dérapais avec elle, tu l'as considéré comme une victime ou comme un objet sexuel ?
Pas que non. Non, je pense pas. J'avais des sentiments. Affectueux, amoureux, je sais pas.
Donc il y avait quand même amoureux.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui a... Nathalie ?
Mais je pense que... Pour moi, je suis persuadée que le papa aimait fortement ses filles pour avoir dérapé. Sans s'en rendre compte, il a dépassé quelque chose, mais il les aime, ses enfants. Il les aime, ses filles. Et je pense qu'il n'a pas su s'arrêter, en fin de compte. Il n'a pas su trouver, s'arrêter au père-fille. Je pense qu'il a été au-delà. Et puis le fait d'être peut-être passé de l'autre côté, il est complètement perdu au niveau des repères.
Moi aussi j'avais honte. Moi j'avais honte. Des fois quand je finissais avec ma belle-fille, j'étais en pleurs. Il y a une honte qui est là qui s'installe. Mais voilà, je pense qu'il faut dépasser ça.
Latifa Benari, vous êtes la fondatrice de l'association L'Ange Bleu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux personnes pédophiles, puis à créer un groupe de parole ?
J'ai été moi-même victime quand j'étais petite, de 5 ans et demi jusqu'à presque 14 ans, de cette maltraitance sexuelle violente de la part d'un très proche de la famille, c'est l'employé de mon père. Après, j'ai croisé très tôt, c'est-à-dire vers 15 ans, 15 ans et demi, une petite fille qui me semblait avoir le même profil que moi, recroquevillée sur elle-même et tout. Je me suis intéressée à sa souffrance parce qu'elle semblait vraiment souffrir. Et j'ai découvert qu'elle était abusée et violée par deux membres de sa famille. Très proche et puis j'étais tellement sensible et tellement choquée par le silence de la famille, je l'ai aidée. Donc c'est un petit peu cette petite qui m'a mise sur le terrain.
Mais à cette époque, vous vous intéressiez aux victimes, pas aux personnes pédophiles.
Alors les personnes pédophiles, le premier pédophile, je ne suis pas allée à sa rencontre pour l'écouter. Je suis allée pour lui remonter les bretelles parce que je voulais, justement, je me sentais capable, je me sentais forte. À 20 ans, une très jeune adolescente pleurait. Elle m'a parlé d'un monstre, d'un violeur. Et comme il n'habite pas très très loin, je me suis dit, ça serait vraiment l'occasion aujourd'hui d'aller l'affronter. Parce que je me suis dit, il représente mon agresseur. Et la surprise était de taille, puisque je me suis retrouvée face à un être humain qui pleurait, qui souffrait, qui était sensible. Et en plus, il n'était même pas prédateur, il était seulement amoureux. Il essayait de lui exprimer son amour par des gestes et n'avait aucunement l'intention ni de la violer, ni de lui faire du mal. J'étais partagée entre la peine et la honte, parce que je pleurais. Et il a cherché à me revoir et à me remercier. Et c'est là où j'ai compris que ça avait fait beaucoup de bien, même à la victime. Et on s'est rencontrés, elle allait beaucoup mieux. Il est allé tout de suite lui demander pardon et des excuses de lui avoir fait vraiment mal ou tout simplement inquiété. Voilà comment j'ai introduit dans cette démarche informelle l'aide et l'écoute des pédophiles lorsque c'est possible.
Donc ouais, moi j'ai commencé à avoir des attirances homosexuelles, on va dire, quand j'étais au collège, même, j'ai l'impression, même avant. Et le problème, c'est que ça s'est bloqué sur cette période-là, et en gros, j'ai beau vieillir, mes attirances sont restées fixées sur des garçons prépubères, avec quand même, malgré tout, des attirances pour des adultes et des gens de mon âge ponctuellement, mais globalement, c'est resté pédophile. Donc j'ai commencé par dévier en allant sur Internet, à consulter des images. C'était une époque aussi, j'avais donc un cousin qui vivait avec moi, qui est né en 92, de 40 ans maintenant. Et donc ça a commencé au départ par des caressons sexuelles, où il n'y avait même pas, dans mon souvenir en tout cas, d'attirance particulière. Puis ça a dérapé donc tout doucement, j'ai envie de dire, mais ça a duré quand même 6 ans avec lui. C'est très paradoxal tout ce qui a pu se passer dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'ai l'impression, moi en tout cas, de le savoir quelque part au fond de moi qu'il n'y avait pas de consentement, mais de mentir et d'y croire à ce mensonge. C'est pour ça que j'ai du mal à, je dis abuser plus facilement qu'agresser sexuellement, parce que j'ai pas eu du tout l'impression d'agresser, de forcer, que ce soit psychologiquement ou physiquement, de menacer, de quoi que ce soit. Donc pour reprendre un peu l'histoire, donc avec mon plus grand, ça s'est arrêté quand je suis parti. Donc l'éloignement était plus ou moins volontaire, on va dire, justement pour arrêter ça, quoi. Donc je suis revenu ensuite ponctuellement, et lors d'un de ses retours, il y a eu avec son petit frère aussi. Alors lui, j'ai tout de suite compris que qu'il n'y avait pas du tout de consentement là pour le coup, c'était beaucoup plus clair. 10 ans d'abord.
Et son frère avait grandi.
Et ouais, il a 4 ans de plus, oui. C'était vraiment sur un canapé ensemble, ouais. Lui était en caleçon,
un complexe.
Ça, voilà, ça a commencé par des appareils. Le caresse a l'air banal, mais bon, encore une fois, c'est. Ça peut paraître banal ou pas, en fonction de quand on sait a posteriori, c'est plus banal, mais bon, sur la jambe, et puis c'est remonté, en gros, jusqu'à ce que je vois son regard qu'il fallait arrêter, donc de suite j'ai arrêté avec lui. Je me suis dit, un peu plus tard dans la journée, allé m'excuser en disant j'aurais jamais dû faire ça, quoi, ça se reproduirait plus, que je vais m'excuser, quoi. Donc avec lui, il n'y a pas eu d'autres épisodes pendant son réveil, ça arrivait une fois pendant la nuit quand même, une nuit où il dormait.
S'il n'y avait pas ce contexte, tu n'aurais pas dérapé?
Bah, c'était pas prémédité du tout. C'était pas prémédité du tout, quoi. Donc oui. Ça s'est arrêté, c'est là, en fin avril dernier. J'ai ma mère qui m'a appelé pour me dire que le plus jeune de mes cousins, le deuxième, avait pensé au suicide. Alors je sais pas jusqu'où ça allait, j'ai pas eu l'histoire en détail. Et c'est pour ça que, bon, comme pour toi, un peu, il n'y a pas une seconde, il m'est venu à l'idée de nier et de mettre sa parole en doute. Donc j'ai tout de suite dit oui à ma mère que ce qu'il disait était vrai. Donc, elle-même a posé la question au téléphone, savoir s'il y en avait d'autres. J'ai pas voulu en parler au téléphone, donc ils sont venus me chercher dans le sud. Et je leur ai dit de me déposer directement au commissariat à Paris pour tout raconter.
Il a été lui-même se dénoncer.
Encore une fois, heureusement qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors après, quand je croise des jeunes garçons dans la rue, je suis obligé de reconnaître aussi qu'il n'y a pas rien, mais il n'y a plus du tout de fantasme, en tout cas clair dans la tête, il n'y a pas de désir, on va dire. Mais bon, ça reste très flou, quoi.
On sert encore une fois du thé à la menthe, c'est comme un rituel rassurant. À la droite de Latifa, Claire fait signe d'un sourire bref qu'elle est prête à parler.
Ce qui m'est arrivé petite m'a beaucoup perturbée dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je ne suis pas encore guérie. Je suis sur une bonne voie, on va dire, une très bonne voie. Je suis vraiment très confiante. Et donc moi, mon parcours, en fait, ça s'est passé pendant mon enfance. Donc c'est le frère de ma mère. J'avais donc 5 ans. Le fait que j'ai occulté tout ça, c'est par des menaces de cette personne. Donc en fait, mon cerveau a complètement occulté ce qui m'est arrivé petite fille. Et c'est à l'âge de l'adolescence, donc quand on voit les premières images à la télé de sexe, des petits bisous, les premières relations, etc., les copains, le collège, y a des images qui me sont revenues à l'esprit. Donc au début, c'était très difficile pour moi parce que je me disais, est-ce que je rêve? Est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Et plus les semaines passaient, plus j'avais des images claires, nettes. Et mon oncle, je le côtoyais régulièrement, c'est-à-dire les anniversaires, les Noëls. Donc les images sont devenues de plus en plus claires et le doute n'était plus permis dans ma tête. Pour moi, ça a été très difficile parce que c'est un secret que j'ai gardé. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et merci beaucoup. Et j'ai révélé à ma mère ce lourd secret à l'âge de 28 ans seulement. Donc de 11 ans à 28 ans, j'ai gardé ça pour moi. Parce que ce que j'ai fait, moi, pendant toutes ces années, c'est que j'ai protégé mon agresseur et ma mère, et également ma grand-mère. Parce que je ne voulais pas qu'on fasse de mal à mon oncle. Malgré que ce soit quelqu'un qui me fait beaucoup de mal, j'avais un besoin de le protéger. Parce que pour moi, c'était mon tonton que j'aimais énormément. Comme une petite fille peut aimer son oncle. Aujourd'hui, j'ai un regard sur lui. Je suis partagée entre la haine de ce qu'il m'a fait et la pitié pour lui. Pour moi, ce qui est pénible aujourd'hui, c'est le combat que j'ai en fait avec la famille qui, malheureusement, certaines personnes de ma famille, ce qui me blesse beaucoup, c'est qu'ils mettent ma parole en doute. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à... Voilà, quand j'entends ma grand-mère qui dit souvent « c'est pas possible, mon fils, il a jamais pu faire ça, ma petite fille », c'est des choses que je peux plus entendre aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de le rencontrer, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et j'ai un besoin de le rencontrer, de parler avec lui.
Juste une petite question.
Je t'en prie, je t'écoute.
Juste une petite question. Tu sais s'il a commis d'autres actes sur d'autres
enfants?
Alors,
on a énormément de soupçons, parce que j'ai entendu, moi, des histoires précédentes. Et moi, j'ai un vécu, notamment, on est parti en vacances. Il a emmené le fils d'un collègue à lui en vacances. Il n'avait pas trop d'argent, donc il a proposé si tu veux, moi j'emmène ton gamin 15 jours en vacances. Le problème, c'est que ce petit, il a fait une fuite pendant les vacances.
D'accord.
On lui a posé la question, pourquoi tu t'es enfui? Il n'a jamais voulu nous répondre. Donc moi, ça m'a...
T'as des doutes.
C'est ce que j'ai vu dans le regard de ce gamin qui m'a...
Ouais.
J'en ai encore
t'as des doutes.
Ouais. Enfin, voilà, c'est donc je souhaite vraiment pouvoir dans un futur dépatouiller tout ça pour aller de l'avant et aider d'autres. Et je pense que déjà le fait qu'on soit là tous ensemble aujourd'hui, je dis chacun bravo quoi, parce que je veux dire ce qu'on fait, je trouve que c'est formidable et faut que ça continue et que ça porte ses fruits jour après jour pour tout le monde. Moi je vais arrêter là parce que sinon je vais.
D'adulte essentiel. Donc moi je vais donner la parole à Nathalie parce que personne ne connaît son histoire.
Moi je voulais surtout rebondir par rapport à son histoire parce que moi j'ai rien vu en tant que maman sur mes deux filles. Et quand on a eu donc toutes ces expertises, a été expertisée, on m'a dit votre grande a été touchée aussi. À l'âge de 7-8 ans. Excusez-moi, ça a passé, c'est pas grave. Et elle s'est droguée, elle a fait des tentatives de suicide. Tout ça, je ne l'ai pas su, moi. Donc, c'était par rapport à ça que je voulais rebondir.
Parce que ton échappatoire,
Julie a eu la même chose.
Je faisais ça pour oublier les images que j'avais.
Des images qui tournent en boucle. C'est comme si j'avais un 45 tours dans la tête.
C'est fini, mais non.
Sans arrêt.
Julie, ça y est. Les images. Arrêtez.
J'avais une image, je ne sais pas depuis quand je l'ai dans la tête, mais ça a toujours été la même image que j'avais de mon père au-dessus de moi. Et pour faire ressortir la douleur que j'avais à l'intérieur, j'étais obligée de me scarifier, de me droguer.
Oui,
voilà. J'ai fait jusqu'à une tentative de suicide et c'est mon frère qui en a été témoin. Il avait 7-8 ans. Et j'ai dit à mon frère, dis-moi que tu m'aimes et j'arrête ma bêtise. Et il me disait, Julie, je veux pas que tu parles, je t'aime. Et du coup, je me suis arrêtée. Je l'ai serré très fort dans mes bras et j'avais besoin d'entendre quelque chose comme ça pour pouvoir me dire si je suis née, c'est pour quelque chose.
Latifa Benhari, on entend dans ces groupes de parole des personnes pédophiles et des victimes qui se rencontrent. Qui sont ces gens et à quelle fréquence participent-ils ?
Je passe un mois à construire ces groupes. Je ne réunis pas n'importe qui avec n'importe qui. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Hier, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui a 76 ans et il m'a appelé de la Belgique. Il a vu une émission où je participe. Il a dit, ouf, enfin, un espace où je vais pouvoir parler de mon silence durant toutes ces années. Il m'a passé sa femme, qui m'a dit, ouf, enfin, quelqu'un qui va me dire qui est mon mari. Donc, c'est lui qui est demandeur du groupe de parole. C'est quelqu'un qui va expliquer comment il a vécu toute sa vie sans passage à l'acte.
Et on sait aussi qu'il y a des personnes pédophiles qui peuvent rester dans le déni de leurs actes. Est-ce que ce genre de personnes se retrouvent à vos groupes de parole ?
J'avoue que je n'intéresse pas à cette catégorie de personnes. Pourquoi ? Parce que je suis passée par là et mon agresseur fait partie de cette catégorie. Donc, ni il frappe à la porte de l'ange bleu, heureusement ils sont rares, et moi je réponds à tous les appels et toutes les demandes d'aide et de soutien. Donc, si quelqu'un il est dans le déni, il ne peut pas demander de l'aide. J'ai proposé aussi au groupe de parole la présence de certains psychologues ou thérapeutes qui entendaient parler de moi. Et je voyais que la participation était totalement différente, que la liberté d'expression n'était pas effective, qu'il y avait une réticence de la part de ceux que je connaissais, ils n'osaient pas parler, et puis le défaut que je comprends des praticiens, c'est de confondre un espace thérapeutique et un espace de liberté.
En attendant de donner la parole à Sylvain, qui vient de loin aussi.
Alors moi j'ai été victime à l'âge de 7 ans. d'un garçon qui avait, je pense, une quinzaine d'années, que j'ai jamais revu, parce qu'ils ont déménagé à la fin, ça se passait pendant l'été. Combien de fois, je ne sais plus trop, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors moi, j'ai occulté aussi, mais j'ai occulté beaucoup plus longtemps que toi. J'ai occulté jusqu'à ma garde à vue, en fait, parce que comme j'ai été pris pour téléchargement, les premières images, les premiers souvenirs sont réapparus pendant ma garde à vue. Et j'ai douté de moi, en fait. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tu t'inventes des histoires pour te trouver une excuse. Et puis en fait, avec le temps, puis avec le psy que j'ai décidé de voir dès que je suis sorti de garde à vue, et ben les souvenirs, il y en a eu de plus en plus, et puis ils étaient de plus en plus précis, donc j'ai eu de moins en moins de possibilités de les nier, quoi. Alors comme je les ai occultés pendant de nombreuses années, ben j'ai pas eu de haine. J'ai pas eu à me rebeller contre quoi que ce soit. D'autant plus que je suis dur au mal, parce que mon père était un peu violent quand j'étais enfant, et physiquement et moralement. Et donc, on va dire que j'encaisse à l'intérieur de moi, et puis...
Enfin, ça sort.
Je le connais depuis des années, mais c'est vrai. Mais tu reprends?
Alors, le truc, ça a quand même eu des conséquences, bien que je m'en souvienne plus. Déjà, bon, les souvenirs qui sont venus pendant la garde à vue, puis après, c'est pas la sensation de violence ou d'abus. Parce que finalement j'ai peu de souvenirs de ce qui m'a fait. Par contre, c'est la sensation de peur. Moi, j'ai associé ces choses-là à la peur, parce que j'avais extrêmement peur de mon père à l'époque. Et moi, la hantise, c'était, dans mon souvenir, c'est d'être pris en flagrant délit par mon père. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il aurait tué le jeune. Moi, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait non plus. Enfin, j'avais très peur de ce qu'il m'aurait fait à l'époque. Et j'ai gardé ça en moi. Alors, ça a continué après l'adolescence, l'enfance, tout ça, les brimades, la violence et tout ce qu'on veut. Et en fait, ça a fait de moi un jeune homme hyper timide. J'ai pas réussi, enfin j'ai eu très tardivement une première aventure, et du coup, ben voilà, c'est ça qui a fait, enfin à mon avis, que je me suis tourné d'abord vers la pornographie, et puis dans les années 2000, je suis tombé sur des images pédopornographiques. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé en moi, ça a été un long bonheur. Et j'ai été un téléchargeur compulsif, hein. Je téléchargeais des fichiers qui contenaient des milliers de photos. Et peut-être qu'à une époque, je sais pas, j'en avais peut-être 100 000. C'est hallucinant quand on y réfléchit, parce que c'est ce que je dis toujours, hein, c'est qu'on en a tellement qu'on peut même plus les regarder. Parce que si, en admettant qu'on se décide un jour, tiens, je vais les regarder, il faudrait une semaine entière, je sais pas, non-stop. C'est complètement dément. Et puis en plus, on a des trucs en doublon, en triplon, en tout ce qu'on veut, quoi. Donc bref. Ma vie sexuelle s'est résumée pendant de longues années à la masturbation devant des photos. Voilà. Et puis après, quand j'ai réussi à faire ma vie avec quelqu'un, c'est resté. Bien que j'avais une vie sexuelle tout à fait épanouie avec cette personne-là, c'était carrément obsédant, quoi. J'ai même téléchargé au travail, hein, je le dis. Hein, et même cette notion de risque-là, et d'adrénaline... dû au danger d'être pris, c'était un plus. Je me suis calmé, et puis bon, après, quand notre couple a commencé à battre un peu de l'aile, on est resté 7 ans ensemble, donc j'y suis retourné, parce que quand ça allait pas bien, pour raison X ou Y, parce qu'il y avait du stress dans le travail, ou parce qu'il y avait du stress dans le couple, ou des trucs comme ça, j'y retournais. C'était de pire en pire. Et ça a été encore... c'est toujours associé, mes envies de télécharger sont toujours associées à ces périodes de fragilité, je dirais, de doute vis-à-vis de moi-même. Et bon, je peux quand même dire un petit mot sur l'ange bleu. Parce que mine de rien, ça fait quand même vachement de bien de venir ici puis d'en parler. Voilà.
Mais ça fait du bien aussi de t'entendre.
J'aime bien dire et j'aime bien insister là-dessus, c'est que moi, il n'y a que les images. Bizarrement, hein, je l'explique pas. Quand je vois une gamine en face de moi, j'ai pas, comme disait oui. Tati tout à l'heure, oui. envie de lui sauter dessus, de lui faire des trucs qui me... Alors pourtant, les fantasmes, les trucs que je fantasme, c'est horrible, dégueulasse. Hein, faut pas faire ce qu'il... Mais jamais je le ferai. Je suis pas un sadique, j'ai pas envie de faire souffrir les gens. On sait que c'est mal ce qu'on fait pour tous ceux qui téléchargent le livre, hein, on sait que c'est mal. Et pourtant, on le fait parce que, quelque part, on cherche à se faire du mal. On cherche à se faire punir, on cherche à s'enfoncer de plus en plus, c'est comme dans... Enfin, je pense que ceux qui ont connu l'alcool ou la drogue, c'est un peu pareil. Quoi. Mmh, c'est ça. On a un petit plaisir qui est de courte durée, et puis après la descente, elle est pas bonne. Quoi.
Nous allons maintenant entendre Marc, devenu un régulier des groupes de parole. Cela fait des années qu'il assène le même discours aux participants, et je constate que son visage et ses mots s'impriment dans l'esprit des pédophiles qui le rencontrent, puisque son prénom revient beaucoup dans leurs discussions.
Donc à l'âge de mes 8 ans, je faisais partie d'une école artistique sur Paris, et lors d'un déplacement scolaire, un voyage, un de mes surveillants a abusé de moi sous les douches, enfin de nous, parce qu'on était plusieurs, et son... Un ami prenait des photos. Donc là, j'ai dû apprendre à vivre avec ça pendant des années. Moi, j'ai pas enfoui ça. C'était plutôt par des colères, des passages de colère de temps en temps. Et après, j'ai rencontré Latifa. Et à partir de là, je lui ai expliqué un peu ma démarche. Je lui ai expliqué, voilà, écoute, moi, j'aimerais vraiment travailler sur les consommateurs d'images. Parce que je suis une preuve vivante que...
Je ne suis pas une image.
Voilà, je ne suis pas une image. Je sais que ça, à chaque fois on le dit, mais je n'arrête pas de répéter aux consommateurs. C'est important de savoir que, tout à l'heure, on disait, voilà, quoi, derrière, j'ai été violé. En plus, on m'a photographié. J'existe toujours. Et j'avais 8 ans. Enfin, voilà, je veux dire, pour moi, je n'ai rien demandé. Et donc, aujourd'hui, j'assouvis peut-être des fantasmes de consommateurs d'images. Mais moi j'ai rien demandé et voilà. Et donc je tiens à préciser qu'en plus quand ça m'est arrivé, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré, je me suis pas débattu. Ça a été fait d'une façon je veux dire, ça se trouve je verrai aujourd'hui les photos, je serais peut-être même étonné de mon visage parce qu'on dirait par contre quelque part il a pas l'air d'être si traumatisé que ça. Et donc voilà, il faut pas se cacher derrière de dire des fois il a pas l'air de souffrir ou il a l'air d'être consentant, ou... Voilà. Mais non. À 8 ans, on n'est pas consentant. Je veux dire, celui qui prenait les photos, il savait très bien pourquoi il était là. Je veux dire, bon, ça s'est passé... Évidemment, ça s'est passé avec un surveillant, donc quelqu'un qui avait une autorité sur moi, dans un milieu scolaire, et il a fait ça à plusieurs camarades. Il nous a mélangés entre nous, justement, pour avoir des photos encore plus sensationnelles, sans doute. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, je me bats, entre guillemets, la force, c'est le combat, le consommateur d'images. Je vais y reparler, leur expliquer qu'il y a quelqu'un derrière, que c'est pas juste une image, c'est pas juste une photo un soir qu'on allume à 23h chez soi parce qu'on a une pulsion, parce qu'on a envie, mais il y a quelqu'un derrière. Voilà.
C'est l'heure de la pause. Dans la cour qui donne sur le jardin de Latifa, un autre type de parole se délie, plus informel. Le temps de fumer une cigarette, une victime s'adresse à un agresseur. Et ce simple pas brise l'image de monstre dans laquelle il était enfermé. Un peu prostré, silencieux, Renaud demeure à l'écart. Sa taille immense et ses épaules larges contrastent avec le visage poupon, les yeux écarquillés et les petites plaques rouges qui colorent son visage. Je remarque qu'il tremble légèrement.
Renaud fait partie des profils très rares, je dirais même exceptionnels, qui font appel à l'ange bleu. Heureusement pour les enfants, je dis. Hein. Je précise aussi que Renaud est, depuis quand ? Castré, c'est ça ?
Depuis
5
ans.
Il y a environ deux semaines, trois semaines,
15
jours, quand il m'a appelé, il avait besoin d'aide parce qu'il était sur le point de passer à l'acte. La majorité se contrôle, la majorité ne sont pas comme lui.
Alors, je ne suis pas en train de parler de lui d'une manière péjorative, c'est juste dire que lui, il a un autre problème. Il est marié, il a 3 enfants, et bizarrement, lorsqu'il organise une fête où il est avec les copains,
de
son fils, il ne ressent rien. Et pourtant, lorsqu'il ressent cette pulsion qui monte, qui va décrire lui, c'est mieux que moi, et ben, il a des problèmes et tout, et lui est arrivé. D'ailleurs, il a même fait
4 mois
de prison.
Oui, enfin, pour moi, un enfant, c'est un objet. Quoi.
C'est un objet.
J'ai pas d'empathie du tout après un passage à l'acte. Ou...
Alors, comment ça se traduit, le passage à l'acte, hein, parce qu'il faut... Est-ce que c'est en le croisant que tu es excité, ou bien c'est après que ça...
Non, c'est en le croisant. Mm-hmm. Dès que c'est, parce que j'ai des caractéristiques précises, dès que je vois un enfant qui me convient parfaitement, je le suis.
Donc en fait, tu es un prédateur.
Oui. Mm-hmm.
Tu le suis alors?
Après, je l'agresse.
Mais comment? Tu l'agresses comme ça dans la rue?
Non, je suis caché lui, et généralement, s'il y a un ascenseur, je l'agresse dans l'ascenseur.
Et tu t'en vas?
Et je m'en vais.
Et comment tu ressens après les choses? Comment...
Ben, rien, j'ai accompli ma pulsion, et je suis calmé, je passe à autre chose, et après je rentre à la maison comme si rien n'était. Je fais à manger, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, jusqu'à la prochaine pulsion, quoi.
Ta famille qui est au courant, donc.
Oui, ma femme est au courant. Mais
sa femme et sa fille aînée.
Et ma fille aînée, oui.
D'accord.
Mon fils, pour l'instant, il sait que j'étais en prison, mais il ne sait pas pourquoi. Dans la rue, je n'arrive pas à me dire que ça peut être mon enfant. Je suis pris dans une sphère ou dans une bulle, et c'est la pulsion qui compte, rien d'autre, quoi. Je pense à plus personne, quoi. Je pense qu'au garçon que je regrette, c'est tout.
Et tu n'as pas peur d'aller plus loin un jour et que l'enfant crie et que tu l'étrangles?
Non, parce que dès qu'un enfant pleure ou crie ou qu'il a vraiment trop peur, j'abandonne, j'arrête et je repars. Ça m'est déjà arrivé qu'un enfant se mettait à pleurer, je suis parti.
Quels sont tes garde-fous? Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que quand tu parles de pulsion, est-ce que tu en as eu dernièrement? Ou est-ce que
oui, j'en ai eu une hier soir, par exemple.
D'accord.
Des fois, j'avais à me contrôler.
Donc tu as la solution pour te contrôler. Tu l'as trouvé un petit peu quand même.
Oui, mes enfants. Donc, mais des fois, c'est tellement fort que je pense même plus à mes enfants.
D'accord.
Le cerveau est complètement pris, quoi.
Le groupe a ses limites aussi, hein, vraiment. Donc,
exactement. Il faut trouver une solution rapidement.
Il faut changer de psy, hein, parce que si tu as un psy qui ne traite pas ton problème...
Oui, c'est peut-être lui.
Ou alors en voir un deuxième.
Tu n'es pas assez compétent pour t'en calmer, je pense.
Pas du tout, non.
Parce que si t'arrives pas à parler ça avec un professionnel, toi tout seul, t'arrives pas spontanément à te trouver des barrières, à te trouver des garde-fous, à arrêter tes pulsions. Ça, t'arrives à l'admettre, il n'y a pas de problème là-dessus.
Latifa, quand on entend le témoignage de Renaud, on vous sent, les participants et vous-même, assez perplexes, voire démunis face à lui. Est-ce que depuis cette rencontre, vous avez revu Renaud et vous a-t-il rappelé, par exemple, alors qu'il avait une nouvelle pulsion?
Bien sûr que je l'ai revu. Bien sûr qu'il m'appelle régulièrement. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'aujourd'hui, il m'appelle pour me dire que ça va très bien, ça va mieux. Et il était castré chimiquement. Et le traitement n'était pas du tout efficace. Donc elle lui a changé son traitement. Heureusement, aujourd'hui, il ne m'appelle presque plus. Et il va venir donc pour le prochain groupe de parole pour témoigner de son évolution et de son bien-être et surtout la réhabilitation avec sa femme.
On sent que vous cherchez à libérer la parole sans hésiter parfois à passer par les plaisanteries, par la dédramatisation. N'avez-vous pas peur de paraître complaisante vis-à-vis des personnes pédophiles que vous rencontrez ?
J'utilise pas le rire comme ça, comme des humoristes. Mais lorsque l'occasion se présente, c'est vrai que je connais tellement bien les participants, ou je connais le pédophile, parce que chaque groupe de parole, il y a des nouveaux. Par exemple, il y a 4 nouveaux pour le prochain groupe de parole. Donc j'utilise un peu l'ironie pour dédramatiser, mais surtout pour mettre une ambiance. Parce qu'il y a des victimes qui sont là, et souvent stressées, angoissées. Et lorsque j'offre le thé, les gâteaux, ben je complète avec le rire lorsque c'est nécessaire. Hein. Je ne ris pas comme ça sans raison.
Je ne sais pas par où commencer, du coup.
Ben déjà, ta proximité avec les enfants, que tu,
ah oui,
que tu ça s'est très bien passé,
oui,
que tu as travaillé sans aucun problème pendant
effectivement,
longtemps.
Pendant une quinzaine d'années, je travaillais avec les enfants sans qu'il ne se passe jamais rien. Et que j'avais... Alors, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais c'est comme ça que c'était de fait. C'était, j'avais une double vie. C'est-à-dire que j'avais une vie la journée avec les enfants où tout se passait très bien. Dans mon autre vie, la vie nocturne,
oui,
c'est des images.
Pourquoi tu as viré, tu as fait un...
Alors, parce qu'un jour, j'ai voulu télécharger, comme je le faisais très souvent, la pornographie classique.
Oui.
Sauf que ce n'était pas du tout classique.
Oui.
Et il y a eu quelques secondes un rejet, parce que bon, il y a toujours les schémas qui nous disent interdit, pas bien, et puis il y a une certaine fascination quand même. C'est à ce moment-là, c'est de l'inconnu, et c'est de la curiosité malsaine qui fait qu'on commence à vouloir se dire tiens, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est qui, enfin, et puis. L'engrenage, on supprime, on se dit non mais ça c'est... Et puis finalement, on se le rappelle, on dit tiens, et puis finalement on devient très efficace. Ça a été une addiction, où il n'y a pas eu de confusion entre ma vie réelle et les images. Sauf un soir où effectivement, où il y a un coucher tardif, une enfant avec qui il y a une proximité... Et un soir, pourtant c'est moi, j'ai traversé l'écran. Et je suis plus... j'ai pas de sourire, mais je me regarde moi-même et je suis en pleine fascination du film que je regarde, mais c'est pas un film. Et je suis l'acteur principal. Alors moi, pour le coup, j'ai été arrêté. Moi, ça a été vraiment la douche froide, le coup des 6 heures du matin, la perquisition, à tel point qu'en sortant de 6 mois d'incarcération, on ne sait plus du tout comment réagir. Il suffit qu'il y a un enfant qui nous connaît, qui nous saute au cou, on se dit « bouge plus
».
Attends qu'elle descende, bouge plus.
Il n'y a pas eu encore le procès.
Non.
Et qu'est-ce que tu fais dehors?
Allez,
non mais c'est pas moi, c'est juste l'esprit. Comment il a fait?
Ce qui m'a fait sortir, c'est une expertise psychiatrique et une expertise psychologique qui, pour les avoir lus en travers, disait que je ne représentais pas un danger pour la société. Et donc du coup, je suis sorti en me disant, d'accord, je suis dehors, comment je vais vivre avec? Je suis un monstre. Moi qui ai tant critiqué les marques Dutroux et compagnie, ça y est, carte de membre. Aïe. Il y a ma famille, enfin, il y a tout. Et c'est ça aussi qui fait que, entre une posture, on se dit on a une vocation, les enfants, on ferait tout pour eux. Et on en arrive là, c'est vraiment une. Trahison pour soi-même, une remise en question. Enfin, même il y a un déni. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est pas si grave. Et puis, on pense aussi à la victime. Bon, c'est surtout ça qui est de se demander comment elle va évoluer. Et c'est au groupe de parole du mois précédent où j'étais assise à côté d'une jeune fille dont j'ai oublié le prénom qui était dans la même configuration que la jeune fille et du coup attendre que
elle te remercie d'ailleurs, elle m'a envoyé un SMS, ça lui a fait beaucoup de bien que tu répondes à ses questions
et ben
Et toi aussi.
J'ai été pendant toute la durée en me disant est-ce que j'ai eu envie de lui parler en disant je suis désolé de t'avoir. Enfin, j'ai dérapé, excuse-moi.
Il avait l'impression de parler avec sa victime.
Très longtemps, je suis pas retourné sur Internet. Là, j'ai une tablette, mais je...
Il est 6h du matin, tu y penses?
Ouais.
Voilà.
Je me dis plus jamais. Et même, j'allais dire, physiquement, physiologiquement, je... Une auto-interdiction, même...
Tu vois.
Pas consciente, mais ça m'a tellement que... en tout cas, pour l'instant, ça fait... pas près de 5-6 mois que je suis sorti. Et pour l'instant... je vis sans aucune consultation ou téléchargement.
Et ça se passe bien.
Et ça se passe bien.
Ah, tu vois ?
Ah oui, non, mais c'est...
Ouais, c'est vrai,
c'est
vrai, c'est
vrai, c'est ça, on l'a vécu tous pareil. C'est clairement ça, mais... Les mécanismes, on les retrouve tous, quoi.
Vas-y, parce que je vais pas te nommer. Allez, François.
Donc moi, c'est un peu la même histoire que monsieur. J'ai commencé par le téléchargement. J'ai été condamné voilà. Une première fois à 4 mois avec sursis, avec 3 ans de suivi. Mon suivi n'a absolument, la première fois n'a absolument servi à rien. Parce que, excuse-moi Marc, j'ai été choqué encore une fois, comme la dernière fois. J'étais pas encore prêt à accepter. Et pour moi, encore une fois, c'était que du virtuel. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec ce genre de truc, quoi. Et de toute façon, pour moi, il était clair dans ma tête que le passage à l'acte était absolument impossible. Sauf que il y a maintenant un an, je faisais du babysitting pour le fils, pour ma meilleure amie. Je gardais son fils et j'ai eu des gestes d'attouchement sur lui. Alors.
Est-ce que tu étais avant attiré par lui ? Est-ce qu'il te plaisait ? Ou bien ça a été vraiment une circonstance ?
Il y avait une relation, mais un peu comme monsieur, il y avait une relation d'extrême affection.
Voilà.
Parce que, je vais vous dire, franchement, c'est un enfant qui vient d'une famille de divorcés. Son père, il voyait pratiquement pas sa mère. Il la voyait que pendant les vacances. Son père est quelqu'un d'assez distant. Il est extrêmement occupé, etc., etc. Donc, avec moi, j'ai toujours été très affectueux avec les enfants. Donc, avec moi, il retrouvait un peu l'amour que... C'est-à-dire, moi, je prenais le temps d'être avec lui, je prenais le temps de l'écouter. Il en a parlé tout de suite à sa mère. J'ai été arrêté. J'ai été, cette fois... condamné à un an d'aménagement de peine. Donc actuellement, je suis sous bracelet électronique. Franchement, j'étais... surtout, j'habitais dans un pays où on ne parle pas de ce genre de choses-là, même au niveau sexuel normal. On ne parle pas de ce choses-là. Donc j'étais extrêmement seul. Je pensais pas en pouvoir en parler, que ce soit avec ma mère ou avec mon père. Maintenant, le garde-fou, moi, je vais te dire ce que c'est aujourd'hui. C'est pas la police, c'est pas les 6h du matin, c'est l'enfant que j'ai agressé, que je considérais comme mon propre fils, si tu veux. Tu vois, s'il peut y avoir un garde-fou, c'est pense un peu à après ce que tu perds. Une fois que tu as franchi un cap, c'est un point de non-retour. Tu perds tout ce que tu as. Je pourrais pas tourner la page. Ce sera toujours un moi. J'y penserai tout le temps. Et ça me gâchera ma vie tout le restant de mes jours. Voilà.
C'est assez marrant, j'allais dire. Parce que les discours, c'est ce qu'on pourrait dire pour une victime. Les mots que tu as employés, c'est exactement... Et c'est ça fort, enfin, c'est pas du tout proche, bien au contraire. Pour se dire, ta souffrance, que t'as, parce que t'en as une, clairement, c'est la souffrance aussi qu'on est victime, et les mots que t'as employés sont identique. Enfin, je veux dire, c'est...
Moi, je me pose la question, qui est-ce qui souffre le plus?
Sauf que toi, c'est des choses que tu as subies quand t'as fait. Du coup, ouais. Tu te sens encore plus impuissant face à ça, parce que tu sais pas comment le résoudre, quoi. Moi, la première...
Tu te sens encore plus dégueulasse, quoi, en fait.
La première idée qui m'est venue quand j'ai été pris par les flics, je suis allé voir le psy, trouver un psy, galère. Et puis, je lui ai dit, voilà, je veux plus être ce que je suis. Et il m'a dit, bah non, ça va pas être possible. Donc, si je ne peux pas concrètement faire un reset et puis effacer ce que je suis pour changer tout ça, comment je vais faire?
Voilà.
On n'imagine jamais la souffrance de ces personnes. Oui, on parle, on focalise que sur les victimes.
Oui.
C'est même des fois une gêne de dire que des personnes comme ça souffrent.
C'est parce
j'ai
que
eu beaucoup de mal au début, quand j'ai créé l'association, de dire... Ces personnes souffrent parce que j'étais tout le temps lynchée. Bon, maintenant, ça a changé complètement. Mais j'avais du mal à dire que ces personnes ont besoin d'aide. Parce que pour toutes les associations, pour les professionnels, pour la justice, c'était du politiquement correct de dire les victimes souffrent, mais pas les autres.
Je pense que c'est quelque chose qui est tabou. Et on ne parle pas d'un tabou. Peu importe que vous soyez des monstres, que vous soyez n'importe quoi. Même nous, en tant que victimes, on est considérés comme des barjots. Parce qu'on a parlé, on est fou, on est accusateur de l'acte qu'a fait mon mari sur mes filles. C'est nous qui sommes coupables d'avoir dénoncé, alors qu'on n'est pas coupable. On est victime de ce qu'il a fait. Bah, pour éviter ce qu'il a fait, bah, le travail en amont que fait Latifa, moi je dis bravo. J'ai bravo à toutes les personnes qui viennent ici pour parler. Moi, aujourd'hui, vous m'avez donné une pêche d'enfer de me battre, d'aider mon mari à sortir du déni.
Ouais, c'est plus important.
J'ai envie de me battre pour le dire, mais avec mes filles, c'est ce qu'on a envie de lui dire. J'ai 4 enfants, j'ai envie de dire, mais arrête de nier.
Ouais.
Accepte. C'est plus important. Tu iras mieux. On est là, on va t'aider.
Pourtant, il a avoué.
Et il a avoué.
Pourquoi il est revenu sur...
Il avoue devant la justice, il nous demande pardon, et quand il est tout seul, il le nie.
L'association L'Ange Bleu n'est toujours pas reconnue d'utilité publique. Est-ce que les pouvoirs publics soutiennent votre engagement?
Lorsque j'ai créé l'association, les premiers courriers qu'on a envoyés avec un avocat qui était le soutien de L'Ange Bleu, c'était de demander le parrainage des députés et des sénateurs. J'ai été surprise puisque j'ai reçu 28 accords. J'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas d'implication concrète. Donc j'ai été reçue ponctuellement par des représentants de la loi ou de la nation. Et j'ai été toujours encouragée, avec des éloges et tout, mais jamais de personne politique n'a concrétisé les promesses, puisque j'ai été souvent invitée pour parler de mon action, mais lorsque je sors uniquement avec des sourires, des promesses et des éloges. Donc j'ai arrêté d'espérer du côté... des gouvernements, et je pense que je vais arrêter d'espérer de ce côté-là par rapport aux moyens, parce que sans moyens je peux pas me développer, parce qu'on me demande d'intervenir dans toutes les régions de France et aujourd'hui même au-delà, en Belgique, en Suisse et même au Canada.
Alors tu regrettes pas d'être venu?
Ah non, du tout.
Évident, aujourd'hui, c'est le premier pas. C'est comme nous, victimes, d'entendre vos paroles qui sont la souffrance, et puis vous, d'entendre nos paroles. Je pense que ça être des facteurs déclenchants de
mais
se dire...
Mais c'est des facteurs.
Voilà, c'est ça, la meilleure thérapie. Mais voilà.
C'est vrai que j'ai pas pensé lui donner la parole à ta fille. J'aimerais bien qu'elle me dise un petit peu son sentiment, mais non, que c'est la fin du groupe.
Bah, déjà, ça me fait bizarre d'être en plein milieu des hommes. Mais ça me permet franchement de comprendre plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a...
Par rapport à ton papa?
Oui, par rapport à mon papa et puis même par rapport aux autres hommes. Parce que j'avais peur de mon père, mais j'avais aussi peur des autres hommes. Et là, je suis très très bien placée parce que ça me permet
de me soigner encore plus et d'accepter vraiment tout le monde à la même hauteur, quoi. Tout le monde a un cœur, tout le monde est vivant, tout le monde a besoin de vivre. Ça me donne même envie de les aider.
Ah bah bravo. Voilà.
Ouais.
Bravo. C'est un peu plaisir. Ouais. C'est vraiment plaisir. Voilà. C'est vraiment le mot de la fin.
Ceci est la fin du groupe de parole qui s'est déroulé en novembre 2013. Je me souviens en être sortie avec un sentiment étrange, mêlé d'apaisement et de perplexité. Je suis convaincue de la sincérité de Latifa et de l'utilité de sa démarche. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions sur ce que j'ai vu et entendu. Je trouve Latifa Benhari bien seule dans son action. Jusqu'où peut-elle faire la différence entre celui qui fait un réel travail sur lui-même et celui qui manipule ? Jusqu'où peut aller l'écoute de celui qui avoue être passé à l'acte sans être inquiété ? Latifa Benhari ne risque-t-elle pas de contrevenir à la loi si elle ne dénonce pas, ou de devenir complice, malgré elle, d'éventuels nouveaux passages à l'acte ? Mais si elle dénonce, elle rompt le lien de confiance établi avec quelqu'un qui l'appelle pourtant pour ne pas céder à ses pulsions. Le travail de Latifa Benhari n'est-il pas, au fond, de nous proposer l'idée que le remède parfait n'existe pas et qu'il faut continuer à chercher ensemble ? L'idée surtout qu'aucune personne ne mérite de ne plus être écoutée, quelle que soit l'horreur de son geste, la laideur de ses désirs ou la nature incompréhensible de ses pensées. Merci à Latifa Benhari et aux participants. Prise de son, Arthur Gerbeau. Attachée d'émission, Christine Bernard-Gedge et Eve Etienne. Productrice coordinatrice, Irène Omonianenko. Un documentaire de Céline Rouzet et François Test pour Sur les Docs.